franceinter.fr.
La France donc face aux réfugiés du Proche-Orient, le pays doit-il imiter l'Allemagne en leur ouvrant les bras? Et si oui, comment les accueillir? Comment les intégrer? Et combien? Pour combien de temps? Est-ce pour tous ces exilés un aller sans retour? On attend vos avis, vos commentaires au 01 45 24 7000 et on en débat ce matin avec deux essayistes. Bonjour Nicolas Bavrez.
Bonjour.
Vous êtes économiste et historien. Face à vous, bonjour Raphaël Glucksmann.
Bonjour.
Documentariste, vous avez milité, battu le rappel avec d'autres pour la manifestation de samedi à Paris, près de 10 000 personnes pour l'accueil des réfugiés. C'est beaucoup ou c'est peu?
C'est une mobilisation qui est née sur Facebook et Twitter, sans paternité revendiquée, sans organisation structurée, et comptant juste sur un élan de solidarité de chaque citoyen qui se déplacerait en son nom propre, pas au nom d'une organisation, pour dire non à des politiques répressives en termes de politiques migratoires qui ont conduit à l'échec et au drame humain que nous connaissons, et oui à l'accueil des réfugiés. Comme l'ont scandé les supporters de foot en Allemagne. Nous savons, on vit un moment très important à mon avis dans l'histoire de France, c'est-à-dire que les supporters de foot allemands se sont avérés plus humanistes, plus solidaires, plus fidèles à la tradition française d'accueil que nombre d'intellectuels et de politiciens
français. Un moment important dans l'histoire de France, dites-vous, mais qui n'est pas perçu comme tel dans l'opinion, en tout cas qui montre une opinion très très partagée pour l'instant sur l'accueil des réfugiés.
Une opinion très partagée qui a été pendant très longtemps travaillée par une forme de droitisation des esprits, à mon avis, et une forme de méfiance vis-à-vis de l'autre. Et donc il va falloir qu'on travaille, qu'on combatte pour expliquer que la France n'est la France que quand elle accueille des gens qui fuient l'horreur de la guerre.
Nicolas Bavrez, quelle est votre lecture de ce contraste franco-allemand?
Ce qui vient d'être dit est absolument exact, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, en Europe, il y a un pays qui est la patrie des droits de l'homme et qui s'appelle l'Allemagne. Et que il y a un pays qui est tétanisé par ses peurs, ses faiblesses, son déclin, qui est la France. Alors ensuite, il y a une part d'émotion. Ce qui est important, c'est d'arriver derrière, comme il a été dit, derrière le drame humanitaire, à essayer de comprendre le fait géopolitique et puis à mettre en place une politique. Et ça, il est bien vrai que de toute manière, l'Allemagne aurait besoin de la France également dans la dimension géopolitique, parce que comme on le sait, c'est un pays dont l'action extérieure, notamment sur le plan militaire, est bridée, alors que la France ou le Royaume-Uni ont des capacités d'action qui sont là supérieures. Et on va sans doute y revenir, mais la stabilisation de la périphérie fait partie des actions à conduire.
On va revenir sur la géopolitique un peu plus tard, mais il y a d'abord des questions matérielles, des questions assez simples et prosaïques qui se posent. Moi, j'ai pas vu beaucoup d'informations ce week-end sur les points d'arrivée des milliers de réfugiés accueillis ce week-end en Allemagne. Où seront-ils hébergés? Qu'est-ce qu'on va leur proposer? Travail, école? Et question subsidiaire, est-ce que la France a les bâtiments, les infrastructures, l'organisation pour accueillir ces réfugiés? Nicolas Bavrez.
Je crois que d'abord, il faut essayer de comprendre cette vague et bien comprendre sa nature. C'est-à-dire que on a un changement considérable. Il y a 60 millions de réfugiés dans le monde et il y en avait à peu près 4 millions par an. C'est en train d'abord d'augmenter considérablement et d'aller beaucoup plus vers l'Europe. Pourquoi? Parce qu'on avait essentiellement pour l'instant une immigration économique, qu'on a maintenant des problèmes géopolitiques, avec notamment un pays qui est la Syrie, un pays de 22 millions d'habitants, où il y a maintenant 11 millions de réfugiés, et puis il y aura peut-être des réfugiés climatiques.
On dit maintenant, mais c'est donc pas tout à fait nouveau, ça fait quand même trois ans qu'il y a des migrants qui
sont en Méditerranée. C'est une crise qui est beaucoup durable, et je reviens à ce que vous disiez sur les points d'arrivée. L'autre grand changement, c'est que ce dont on a parlé depuis des années, ce sont les drames en Méditerranée, qui continuent, mais le grand changement, c'est qu'on a aujourd'hui une route des Balkans, et il y a 3000 personnes par jour qui arrivent par les Balkans. D'où l'impact sur un pays comme la Hongrie, par exemple, qui n'est pas un impact petit, parce qu'on peut leur donner des leçons de morale, mais c'est un Calais par jour. Donc, quand on voit l'impact que ça a chez nous, ça ne veut pas dire... Ça ne doit pas inviter à donner un blanc-seing à M. Orban, mais il faut essayer de comprendre les problèmes que ça pose. Alors, je reviens aux choses matérielles. Les Allemands vont accueillir 800 000 personnes. Quand vous dites qu'est-ce qu'ils font, eh bien, ils agissent. Il y a 10 milliards d'euros qui ont été maintenant votés. Il y a 6 milliards côté gouvernement et fédéral. Et il y aura l'équivalent à terme, donc on sera plutôt du côté de 12, côté des lenders. Berlin accueille 500 personnes par jour. Il y a des écoles qui ouvrent ce matin pour les enfants des...
qui ouvrent spécialement.
Oui, pour les... Alors, le problème, c'est qu'il continue à arriver des gens. Mais donc, les Allemands ont réussi à mobiliser, y compris un certain nombre de bâtiments publics. Alors, de notre côté, on pourrait également faire des choses, mais il faut s'organiser. Donc il est clair qu'en Europe, on a besoin d'un commissariat pour les réfugiés, et qu'en France, il faut faire une task force avec, on a des bâtiments qui sont des bâtiments déclassés et déserts en France, on peut les réouvrir, il faut être intelligent, c'est vrai qu'on va pas les mettre aux normes handicapées ou sécurité incendie du jour au lendemain, donc il faut accepter d'accueillir des gens dans des conditions, y compris qui peuvent être un peu risquées, mais il faut absolument s'organiser.
Raphaël Glucksmann.
Non, ça me semble juste, c'est-à-dire qu'il y a des logements vides en France, des logements qui ne sont pas occupés, et quand des réfugiés viennent occuper ces logements vides, on envoie la police au lieu d'envoyer des gens pour les aider. Donc, à mon avis, tout ça découle du fait que les pouvoirs publics n'ont pas assumé, comme en Allemagne, un vrai discours d'accueil, en disant « nous allons mener une politique d'accueil ». Si on dit cela, ensuite, il y a des décisions qui en découlent, et en plus, en France, on parle de nombres beaucoup plus restreints qu'en Allemagne, et donc, c'est tout à fait possible. Mais j'aimerais qu'on s'interroge vraiment sur ce que ça signifie pour nous. C'est-à-dire que c'est pas juste une question de géopolitique ou une question de différence de santé économique entre la France et l'Allemagne ou de démographie. C'est vraiment quelque chose qui nous interroge. Qu'est-ce que nous voulons pour notre société? Qui sommes-nous? Parce que quand on voit des réfugiés syriens qui traversent la frontière hongroise avec des portraits d'Angela Merkel, ils n'ont pas des portraits de François Hollande ou d'un quelconque politicien français. Ils ont des portraits d'Angela Merkel. Donc, nous qui nous targuons de manière permanente d'expliquer au monde entier que nous sommes le pays des droits de l'homme et que c'est comme ça qu'il faut vivre, et bien à mon avis, il faut qu'on s'arrête deux minutes et qu'on réfléchisse, qu'on regarde autour de nous en Europe, en Allemagne, mais aussi en Autriche, et qu'on voit à quel point là-bas, des valeurs humaines que nous sommes censés incarner sont beaucoup plus en vie que chez nous. Et qu'ensuite, si on comprend que c'est fondamental pour nous, eh bien on trouvera les moyens pour accueillir ces gens. Je veux dire, vous avez à Strasbourg-Saint-Denis, à République, là où il y avait la manifestation, des logements vides. On peut inviter des gens et des associations à occuper ces logements vides. C'est des logements en plus qui sont à des institutions publiques.
Un mot encore, Nicolas Barfaz, on va faire la pause pour la revue de presse.
Je crois qu'il faut garder raison, c'est-à-dire que l'idée qu'on va commencer à aller réquisitionner des propriétés privées pour installer des réfugiés, ça, si on veut vraiment tout arrêter, c'est la bonne manière de s'y prendre. Donc, il faut quand même être raisonnable, c'est-à-dire que il faut partir du fait de... Il peut y avoir des gens qui ont envie d'accueillir des réfugiés chez eux, et donc, il faut absolument le faire, ça s'organise, et c'est très bien. Ça doit se faire sur une base purement volontaire. Même chose pour les... Mais si l'État commence à les réquisitionner les biens des uns et des autres pour mettre des réfugiés, c'est la catastrophe. En revanche, il y a des endroits en France, on a plein de villages qui sont déserts, avec des gens qui veulent accueillir des gens, rouvrir des écoles. On a besoin par ailleurs d'un certain nombre de gens qualifiés, parce qu'il ne faut jamais oublier qu'en Syrie, il y avait une classe moyenne remarquable, et il y a beaucoup de gens qui sont des gens éduqués et qualifiés. Eh bien, c'est là-dessus qu'il faut essayer de raisonner.
C'était la proposition de Jean-Pierre Raffarin il y a 6 mois.
Mais certainement pas sur une base de réquisition.
Je parlais de bâtiments publics d'abord. Et oui, il faut d'abord louer l'élan de solidarité d'individus français qui ont décidé d'aider. Et c'est, à mon avis, extraordinaire et ça doit être dit. Mais simplement, les pouvoirs publics ne peuvent pas se défausser sur la solidarité des citoyens. C'est-à-dire que c'est extrêmement important de savoir qu'on a une puissance publique en France qui a des moyens et qui peut... former une politique et qu'on peut pas juste dire les Français soyez généreux, c'est très important qu'il y ait cet élan de générosité, mais on a un État avec un parti politique au pouvoir qui doit avoir un discours politique et ensuite qui doit mener une politique.
Raphaël Glucksmann, Nicolas Bavaz, on vous retrouve dans quelques minutes avec les commentaires, les avis qu'on espère nombreux des auditeurs de France Inter sur ce sujet brûlant et, vous l'avez dit il y a un instant, historique. Dans un instant, la revue de presse.